Bonjour Fabrice et bonjour à tous et content de vous retrouver fidèle à 2000 ans d'histoire qui commence aujourd'hui sa 8e année sur France Inter avec un changement d'horaire puisque désormais vous pourrez nous entendre comme aujourd'hui tous les jours à 13h30 et non plus à 14h. Et aujourd'hui, en ce jour de rentrée des classes, un sujet de circonstance, de Socrate à Charlemagne, l'invention de l'école. Nous voulons que des écoles soient créées pour apprendre à lire aux enfants. Capitulaire de Charlemagne en 789. D'histoire. À la fin du 8e siècle, tous les abbés et les évêques de ce qui ne s'appelait pas encore la France recevaient de Charlemagne un capitulaire, une ordonnance royale, qui leur demandait d'apprendre à lire, à écrire et à compter à tous les enfants de son royaume. Elle était signée par un souverain qui ne savait ni lire ni écrire quand il était devenu roi des Francs, mais qui était avide de connaissances et surtout conscient que pour gouverner ce qui allait devenir un empire, il ne lui fallait pas seulement des soldats, mais des administrateurs, des savants, des juristes, des fonctionnaires et des lettrés, comme ceux dont Charlemagne s'était entouré et qu'il avait fait venir de tous les pays d'Europe. Pierre de Pise, Paul Diacre, Paulin d'Aquilée, ou encore ce moine anglais dont tout le monde a aujourd'hui oublié le nom, mais qui est pourtant à l'origine de la réforme la plus importante et la plus célèbre de ce qu'on a appelé la Renaissance carolingienne.
Qui es-tu ?
Un moine.
Un moine qui vient de loin, du pays des Angles.
Ton nom ?
Alcuin d'York.
Et tu sais qui je suis ?
Non, oui. Tu es fort, jeune, bien fait, mais ignorant. Et ton peuple doit s'instruire. Tu veux que les Francs bâtissent un empire avec des armes? Non, il vaut mieux les éduquer. Et rappelle-toi, la foi et le savoir vont de pair en ce monde. Seul un peuple qui peut lire étudiera. S'il sait écrire, il fera des lois afin de défendre sa religion. Tu comprends?
Cela demandera du temps et des larmes.
Toute ta vie.
Minois, bonjour.
Bonjour.
Alors, parmi les 12 millions de jeunes qui retrouvent aujourd'hui le chemin de l'école, très peu, sans doute, savent qui était Alcuin d'York. Et pourtant, c'est lui, plus encore que Charlemagne, qui est à l'origine d'une école dont les objectifs, finalement, n'ont guère changé depuis 1200 ans, qu'elle nous apprend à lire, à écrire et à compter. Alcuin d'York, qui fait partie des très nombreux personnages de votre livre, les grands pédagogues depuis Socrate. Car Charlemagne n'a pas inventé l'école, elle existait déjà dans l'Antiquité, bien sûr, Georges Minois.
Oh, bien entendu, c'est presque une évidence, je dirais. Les hommes ont toujours eu d'un savoir à transmettre de génération en génération, donc c'est presque automatiquement, je dirais, que des écoles se sont créées, des classes, dans les cités grecques d'abord, bien entendu, et puis dans l'ensemble de l'Empire romain, et même après la chute de l'Empire romain, dans le monde dit barbare, il subsiste malgré tout quelques rares écoles que Charlemagne va faire renaître.
Et ça depuis l'Antiquité. Lorsqu'apparaissent aussi les premiers pédagogues, et même d'ailleurs le mot dont l'étymologie pédagogue est assez surprenante quand on vous lit, Georges Minois.
Oui, le pédagogue, en fait, à l'origine, c'est quelqu'un qui a un rôle très humble. D'abord, c'est un esclave, et ça signifie celui qui conduit l'enfant. En réalité, donc, ça n'est pas ce qu'on appelle un enseignant de nos jours. C'est quelqu'un qui aide l'enfant à faire ses devoirs, qui lui porte ses affaires. On pourrait peut-être le comparer à ce qu'on appelle aujourd'hui la pratique du soutien scolaire. Il l'aide à la maison, et il est un conseil pour lui, et c'est ce que signifie à l'origine donc pédagogue.
Ce qui m'a surpris aussi en vous lisant, c'est que le pédagogue aussi bien que le maître, ce sont des métiers, Georges Minois, qui sont vraiment discrédités. C'est vraiment méprisé, le pédagogue et le maître dans l'Antiquité, c'est vraiment un boulot d'esclave justement.
Oui, tout à fait. Dans les écoles, primaires, disons, en particulier, mais même dans le secondaire, le grammairien sont des gens qui sont très mal payés, qui sont
payés par qui d'ailleurs?
Ils sont payés essentiellement par des fondations. Alors, des fondations privées, dans la cité grecque, par exemple. Alors, il y a quelques cités qui avaient un système d'enseignement d'État. D'ailleurs, ça a donné lieu déjà sous la Grèce un débat. Est-ce que c'est l'État qui doit s'occuper du système scolaire, ou bien est-ce que ce sont des fondations privées? Alors, oui, ils sont payés essentiellement donc par des fondations privées ou par les municipalités, très souvent. Mais ils sont très mal considérés, c'est vrai, parce que ce ne sont pas des créateurs, ce ne sont pas des écrivains eux-mêmes,
Transmettent.
Ils transmettent un savoir, ils ne font que transmettre, je dirais. Bon, ce sont des courroies de transmission, et très souvent, d'ailleurs, on a recours pour jouer ce rôle à des gens qui sont plus ou moins des déclassés, je dirais, qui savent à peine lire et écrire eux-mêmes.
Autre chose, parce que ce que vous dites là, au fond, c'est souvent un peu le cas aujourd'hui. C'est vrai que le maître n'a pas la place qu'il avait à l'époque où Ferry inventait, mais ça c'est bien après Socrate, les instituteurs. Mais autre chose qui est discrédité, c'est peut-être un héritage, un mauvais héritage que nous a légué dans qui vient de l'Antiquité, c'est le travail manuel. Lui aussi, il est méprisé. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles? C'est lire, c'est écrire, c'est les connaissances. C'est pas le travail pratique qui est réservé à la famille.
C'est ça. En fait, je dirais il y a trois buts à cet enseignement. Il y a toujours eu trois buts. Il y a d'une part un but professionnel, mais qui est assez souvent, c'est vrai, négligé, surtout en ce qui concerne les travaux manuels, c'est vrai. Il y a un but, je dirais, moral. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement de la citoyenneté. Et puis, il y a un but culturel. Et dans la culture, c'est essentiellement l'aspect littéraire qui va prédominer pendant très très longtemps.
On forme des lettrés, donc, dans cette école antique, plus que des soldats, ce dont se plaignait d'ailleurs le célèbre et turbulent fils de Philippe de Macédoine, qui préférait faire la guerre plutôt que d'écouter un des plus grands pédagogues de l'Antiquité.
Salut à toi, Alexandre.
Pétus, pourquoi mon père t'envoie-t-il?
Pour exercer de nouvelles troupes et les lui amener.
Pour que nous combattions.
Je n'ai pas reçu d'ordre en ce sens.
Gloire à Philippe.
Mais il thésaurise la gloire comme un avare. Tandis que nous restons à Miezza, au pied d'Aristote, à découvrir les mystères des sciences, des mathématiques, de l'histoire, de la logique. Et que probablement l'un de nous va composer un ouvrage et devenir célèbre comme disciple d'Aristote.
Aristote, pardonne-moi.
Pourquoi donc? Tu as parlé en roi. Et moi en pédagogue.
Quelles étaient les matières, Georges Minois, que Aristote et puis les pédagogues en général enseignaient à leurs élèves d'Antiquité? Vous insistez beaucoup sur l'une d'entre elles, notamment, qui était la rhétorique, l'art de bien parler.
La rhétorique est effectivement essentielle. Elle prend son essor dans la cité grecque, notamment avec l'apparition de la démocratie. On s'est très vite aperçu que pour faire une carrière politique, il était absolument indispensable de maîtriser le langage, le beau langage, pour savoir persuader, convaincre. Et donc très vite, la rhétorique est devenue la discipline reine, véritablement, qui couronnait toutes les autres, qui chapeautait toutes les autres. C'était l'aboutissement de l'enseignement. Avec d'autres, alors, au niveau secondaire ou même primaire, il y avait aussi des disciplines qui aujourd'hui ont été reléguées largement au second plan, comme la musique, mais qui occupaient un rôle très très important à l'époque, comme pour atteindre la maîtrise de soi, le sens de l'harmonie, de l'équilibre, la musique, le dessin, et puis la poésie. Alors la poésie, c'est-à-dire essentiellement les œuvres d'Homère dans la cité grecque, bien entendu, mais ce n'était pas simplement évidemment le fait d'apprendre quelques poèmes. C'est la poésie, c'est toute une littérature, et ça véhicule évidemment tout un contexte, toute une civilisation, en fait, d'où l'importance qu'on apportait à cette discipline.
Alors cet enseignement, il va se poursuivre en fait malgré la fin de la Grèce, ou plutôt son absorption dans l'Empire romain, qui reprend au fond l'enseignement classique des Grecs. Les Romains étaient fascinés par les Grecs, au point d'ailleurs que l'enseignement, je crois, se faisait en grec à Rome.
Voilà, il y a un bilinguisme de l'enseignement à Rome qui est assez frappant. D'ailleurs, qu'un bilinguisme qui va se poursuivre pendant très longtemps dans les écoles européennes. On enseignera pendant des siècles en latin. alors que c'est devenu une langue morte depuis très longtemps. Et sous l'Empire romain, on n'enseignait pas en latin, justement, on parlait le latin, mais là, on enseignait en grec, à cause de ce prestige de la culture grecque dont vous parliez tout de suite, c'est vrai. Alors, c'est un facteur d'élitisme, bien entendu, que les vieux romains, le Caton, le Censeur et quelques autres, évidemment, n'appréciaient pas du tout. Ils ressentaient ça un petit peu comme une sorte de trahison à l'égard de la culture latine proprement dite.
Alors dans cet empire romain apparaît le christianisme, il va même devenir la religion officielle de l'empire à la fin de l'empire d'Occident. Quelle était la façon dont le christianisme et sa puissance à ce moment-là dans l'empire romain, à la fin de l'empire romain, a conçu justement l'enseignement classique qui après tout est un enseignement païen, Georges Minois?
Oui, alors là, il y a une évolution assez nette à la fin de l'Empire romain. C'est vrai, le christianisme se développe beaucoup, mais dans un empire qui est en train, lui, alors de s'effondrer morceau par morceau. Et les chrétiens envoient leurs enfants dans les écoles païennes, c'est vrai. Et il y a même des professeurs chrétiens qui enseignent dans les écoles païennes parce que on considère que, en fait, la culture donc gréco-romaine, c'est la culture tout court, et qu'on ne peut pas devenir un homme cultivé sans maîtriser ces poètes, hein, comme Homère, comme Virgile, ou comme Horace, ou comme les autres. Donc, les chrétiens, dans un premier temps, c'est vrai, se sont raccrochés à cette culture, parce qu'elle était synonyme de civilisation, tout simplement. Alors, ce qu'ils ont ajouté, et qui va évidemment profondément changer le système, c'est cette conception de l'homme comme une créature, enfin, devenue mauvaise à cause du péché originel. Alors, donc, ce qui signifie que l'enfant, au départ, n'est pas du tout le petit être innocent qu'on concevra plus tard, mais au contraire, c'est un personnage maléfique depuis ce fameux péché originel, et qu'il faut donc éduquer en se servant de méthodes très énergiques.
On y reviendra, Georges Minois, mais on l'éduque de plus en plus dans des abbayes, dans les paroisses. En fait, très vite, l'Église prend le monopole pratiquement d'un enseignement qui d'ailleurs n'est réservé qu'à un tout petit nombre d'individus à l'époque, au début du Moyen-Âge.
Oui, ben à cette époque-là, de toute façon, la civilisation urbaine latine, évidemment, s'est complètement effondrée. Les villes sont réduites à très peu de choses, et les seuls personnages qui maîtrisent encore la lecture et l'écriture, ce sont les clercs, bien entendu. Alors, ils visent avant tout à former eux-mêmes leur propre successeur, hein, d'où évidemment ce monopole qu'ils exercent dans le domaine de l'enseignement.
Et à les former pour devenir moine, pour devenir prêtre, d'où le fait que c'est un très petit nombre d'enfants que l'on enseigne, jusqu'à ce qu'au 8e siècle, en 789, eh bien Charlemagne prenne la décision la plus importante de son règne.
Les centaines de monastères et les 200 évêchés que compte mon empire concentrent toutes les capacités intellectuelles du royaume. Je ne peux pas ne pas m'en servir. Et c'est à eux que je vais confier ce que je considère comme la tâche la plus importante de mon règne. Apprendre à lire et à écrire au plus grand nombre de mes sujets. Je dois donner à l'Empire des gens capables de s'en occuper. Il faut apprendre ou disparaître.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui, et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle?
Quatre et quatre fois huit, leçon de français, de mathématiques,
que de
travail, sacré, 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 sacré Charlemagne.
Il aurait... Pardon pour cet anachronisme, Georges Minois. Là, on n'est plus avec France Gall au 8e siècle, mais bien au 20e. Cela dit, cette chanson était dédiée à Charlemagne, sacré Charlemagne, qui n'a pas inventé l'école. Qu'est-ce qu'il a apporté cependant de nouveau? Vous dites dans votre livre sur les grands pédagogues qu'il est le père des réformes pédagogiques. Avec un point d'interrogation quand même.
Oui, je veux dire par là que ce qu'il a apporté, c'est essentiellement une impulsion. Il a encouragé les grands personnages de son royaume à faire éduquer leurs enfants. Il a insisté sur le caractère fondamental de l'éducation, de l'enseignement. Il a besoin de lui-même d'un personnel nombreux pour gérer les domaines, pour s'occuper de l'administration. Donc, et il a également un certain sentiment, je dirais, un certain complexe d'infériorité, voilà, lui-même.
Oui. C'est ça qui est formidable quand même, c'est qu'effectivement, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, et pourtant, il était, dites-vous, curieux de tout, très avide de connaissances.
Voilà, et Ginard, par exemple, et Notker, qui ont raconté sa vie, racontent qu'il camouflait des tablettes sous les coussins de son lit pour la nuit réviser, apprendre. Il a un appétit de savoir assez extraordinaire, c'est vrai. Alors, c'est ce côté sympathique du personnage qui a souvent été mis en avant, qui a fait qu'on a parlé de Charlemagne comme le fondateur, le créateur de l'école. On a même célébré un Saint Charlemagne plus tard, patron des écoles. Bon, tout ça, c'est un petit peu de la légende, mais il reste quasiment certain que c'est un souverain qui avait une très haute idée de l'éducation.
Et Ginard, que vous citez, était un produit de ce qu'on appelait l'école du palais, l'école de Charlemagne. Mais avant, justement, de demander aux comtes, aux évêques, de construire des écoles, lui-même s'était entouré d'intellectuels. J'étais très surpris d'apprendre que, évidemment, enfin, on s'en doute un peu, mais que derrière Charlemagne, il y a une quantité de gens, dont cet Alcuin d'York, ce moine anglais, qu'il avait fait venir de toute l'Europe. Alcuin était anglais, mais d'autres venaient d'Italie ou d'Irlande. Pourquoi trouvait-il en Irlande ou en Italie ce qui n'existait pas à l'évidence dans le royaume des Francs?
Oh, tout simplement parce que dans ces pays-là, justement, le mouvement monastique s'était beaucoup développé et il y avait des scriptoriens qui étaient très importants et des intellectuels donc de renom. Enfin, il a fait venir tout ce qu'il y avait de mieux, je dirais, dans l'Europe de son époque. Or, il se trouve qu'à l'époque, c'est vrai, les Irlandais avaient un système monastique qui était très très performant. En Italie également, à Aquilée, à Padoue, etc. Bon, donc c'est la raison pour laquelle Charlemagne a fait venir ces gens-là, former une espèce d'équipe de base pour mettre en place le système pédagogique qu'il souhaitait.
Dans cet Alcuin d'York, donc, qui a inspiré ce fameux capitulaire de 789. Je dis fameux, c'est tout bête ce qu'il dit, hein, nous voulons que des écoles soient créées pour apprendre à lire aux enfants, mais en même temps, c'est absolument capital. Des capitulaires, d'ailleurs il y en aura d'autres, qui vont profondément changer l'école carolingienne où l'on parlait encore en latin.
Cosa ergo manitudinis imperii Romani, nec fortuita est nec fatalis, secundum eorum sententiam, sive
officinale. Restez, saint Augustin, préparez un capitulaire pour les abbés et pour les évêques, mais pas en latin classique, en latin de tous les jours que tout le monde comprenne. Demandez qu'ils ouvrent des écoles partout. Désormais, l'enseignement se fera en langue romane ou tudesque selon les régions. Mais surtout pas de latin d'église.
Si.
Sinon, les enfants doués des campagnes n'auront pas accès aux écoles. Préparez-moi une visite dans une école quand je serai à Francfort.
Je ramènerai les meilleurs au scriptorium du palais.
C'était un autre extrait de l'excellent docufiction de Jean-François Delassus, l'an 800 au temps de Charlemagne, qui a été diffusé en décembre dernier sur Arte avec Bernard-Pierre Donadieu, on l'a reconnu dans le rôle de Charlemagne. Charlemagne, on l'a entendu, et c'est aussi ça apporté à ce qu'on a apporté à son crédit, qu'il voulait qu'accèdent à l'école tous ceux qui en étaient écartés, c'est-à-dire les enfants des campagnes, justement, Georges Minois.
Oui, alors, en théorie, effectivement, l'école est ouverte à tous. Mais je dis bien en théorie, on imagine bien que les enfants des paysans de l'époque, occupés aux travaux agricoles, ne fréquentaient pas l'école de façon régulière.
Il faudra attendre Jules Ferry, on est loin, évidemment, de l'école obligatoire.
Bien sûr. Donc, en réalité, l'école continue à être fréquentée essentiellement par les fils de la... des grands propriétaires de l'époque, bien entendu.
Les fils de comtes. Il y a une légende comme ça qui racontait, je crois que c'était un siècle après Charlemagne, un certain Notker, le bec, qui avait cette belle légende qui a perduré et qui disait qu'un jour, en visitant une école, eh bien Charlemagne avait mis à sa droite les bons élèves, comme par hasard, c'était les enfants de pauvres, et puis alors les mauvais élèves, les paresseux, les flemmards, qui étaient les enfants de nobles, de comtes.
Voilà, alors cet épisode, évidemment, plaisait beaucoup, notamment sous la Troisième République, au moment de la création de l'école obligatoire. Ça va dans l'esprit démocratique et républicain, entre parenthèses. Donc on a beaucoup développé, alors dans les, je me rappelle très bien les manuels qu'on utilisait par exemple à l'école primaire, les manuels d'histoire, où on voyait, enfin cette scène était représentée, dessinée, c'était tout à fait dans l'esprit de l'époque, c'est vrai. Alors, bon, est-ce que ça correspond à une réalité? Ça c'est autre chose.
Hein. Il y a quand même une réalité, c'est que on verra par la suite dans les écoles qui se sont multipliées sous Charlemagne des gens de très modestes origines qui accéderont aux plus hautes charges. Je pense par exemple plus tard, un siècle après Charlemagne, à Gerbert qui était un ancien berger qui a ensuite été écolâtre, c'est-à-dire directeur d'école à Reims et qui est même devenu pape. Donc il y a quand même une espèce d'ascenseur, si on peut dire, social à l'époque de Charlemagne.
Oui. Oui, c'est vrai, par le biais de la vie monastique. Les parents qui peuvent placer leur enfant dans un monastère. Il y avait dans les monastères en général deux groupes d'enfants. Il y avait ceux qui se destinaient à la vie ecclésiastique elle-même, et puis il y avait d'autres. Alors, parmi ceux qui se destinaient à la vie ecclésiastique, il pouvait y avoir effectivement des enfants d'humble origine, et si ceux-ci se révélaient des sujets très brillants, il était possible qu'ils accèdent à des postes très élevés. Alors, Gerbert, évidemment, le futur Sylvestre II, l'exemple typique, le pape de l'an 1000, qui était un savant extraordinaire.
Ou qu'ils arrivent tout simplement à ce qu'on appelait sous Charlemagne l'école du palais, de son palais d'Aix-la-Chapelle, ce qu'on appelait les nourris. Eginhard, par exemple, était aussi, je crois, de modeste origine, je suis pas sûr, mais oui. En tout cas, il était pensionné pour devenir justement fonctionnaire de ce qui va devenir un empire. Il y a un objectif politique, il y a quand même aussi... de la part des abbés ou des prêtres qui continuent de monopoliser un peu l'enseignement, même s'ils développent de nouvelles écoles, il y a quand même un objectif religieux. Il faut les enseigner aux enfants à être de bons chrétiens.
Bien entendu. Alors là, ça donnera un débat d'ailleurs qui va durer, je dirais, plusieurs siècles. Est-ce que l'enseignement, la culture est quelque chose qui est positif ou qui est négatif, parce qu'il y aura deux courants en fait dans l'Église. Un courant, je dirais, négatif, qui sera représenté par exemple par Saint Bernard et qui est tout à fait hostile à l'éducation, parce que l'éducation véhicule
des mauvaises
idées, la contestation. Voilà, bon, et donc tout doit être basé exclusivement sur la Bible, qui suffit largement aux besoins du chrétien. Et puis il y a l'autre courant contraire qui insiste sur le caractère bénéfique de l'éducation, qui permet de mieux comprendre la foi. Enfin, il y aura toujours ce débat à l'intérieur de l'Église, enfin toujours jusqu'au 19e siècle.
Une éducation à la baguette. Vous parlez de pédagogie du bâton. On l'employait déjà dans l'Antiquité. Ça continue au Moyen Âge. Vous citez par exemple un maître d'école normand. Que puis-je faire d'eux? Je te le demande. Ils sont pervertis par les enfants. Bien sûr, ils sont pervertis et incorrigibles jour et nuit. Nous ne cessons de les battre à coups de fouet et sans cesse ils empirent. C'était terrible cette éducation, hein. C'était dur.
C'était énergique, c'est vrai. Hein. Il y avait même le titre d'un manuel qui s'appelait L'épargne d'eau, qui avait été écrit par un pédagogue de l'époque du 7e siècle, me semble-t-il. Alors il faut entendre ce titre dans le sens suivant, épargne d'eau, c'est-à-dire si vous assimilez bien cette méthode, eh bien vous épargnerez à votre dos les coups de bâton, hein, qui étaient donc la pratique régulière.
Alors ça, heureusement, ça a changé. Ça procédait quand même de l'idée très noire qu'on se faisait des enfants, effectivement, issus du péché originel, etc. Donc il fallait les réformer à coups de bâton. Ça, ce qui a heureusement changé, de même d'ailleurs aussi que les moyens techniques, vous en parlez d'ailleurs, dont disposait l'époque. Peu de livres, encore pas de papier. Il a été inventé en Chine, mais on le connaît à peine en Europe. Encore moins de stylos. Sur quoi et avec quoi écrivaient les élèves, Georges Minois?
Alors, fréquemment, des morceaux, des plaques de cire, hein, qui jouaient un petit peu le rôle de ce que seront les ardoises beaucoup plus tard, ou alors même des tessons de poterie, par exemple en Grèce, qui servaient un petit peu pour les brouillons, hein, sur lesquels on pouvait graver les lettres, des planches de bois. Sur lesquels on pouvait graver également, mais la cire évidemment est beaucoup plus économique et pratique, étant donné qu'on peut réutiliser le même plateau plusieurs fois, mais sans des matériaux évidemment très rudimentaires et mal commodes.
Alors on est loin évidemment de ce dont disposent les écoliers et les élèves d'aujourd'hui. Ça aussi, ça a changé. Comme l'école, vous dites, le grand pédagogue, au fond, en parlant grand réformateur de l'école. Alors depuis, vous le savez, Georges Minois, l'école, on ne cesse de la réformer. Il n'y a pas un ministre de l'éducation qui ne sorte pas sa petite réforme. Est-ce que il reste quand même quelque chose de cette école de Charlemagne?
Ben, ce qui reste, c'est l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui le tronc commun, et qui revient en force à l'heure actuelle,
oui, oui.
C'est-à-dire le fait que les enfants doivent être capables de maîtriser certaines bases absolument indispensables, évidemment, de lecture, d'écriture et de calcul. Alors, c'est une idée qui redevient d'autant plus forte aujourd'hui que on est de plus en plus dans un monde multiculturel et dans lequel donc il est absolument indispensable qu'il y ait effectivement une base commune que tous les enfants puissent maîtriser.
Et qu'on leur apprenne enfin ce qui manque à l'école, c'est un peu son histoire, parce qu'à part les légendes et à part France Gall qu'on a entendu, on sait pas grand-chose au fond de l'histoire de l'école en France. Merci en tout cas de nous l'avoir rappelé, Georges Minois. Pour en savoir plus justement sur l'histoire de l'enseignement de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, vous allez bien au-delà de Charlemagne, je recommande la lecture de votre livre, Les grands pédagogues, de Socrate au cyberprof aux éditions Louis Audibert. Et vous êtes également l'auteur chez le même éditeur du culte des grands hommes. À lire aussi École, demander le programme de Philippe Mérieux, une coédition ESF France Inter. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Charlemagne de Clive Donner chez Pathé Télévisions, ainsi que du film L'an 800 au temps de Charlemagne de Jean-François Delassus avec Bernard-Pierre Donadieu, et disponible en DVD chez Arte Vidéo. Et puis il y a également un autre film dont vous avez entendu un extrait, c'est Alexandre. D'autres références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Anstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Tesser, Claire Descacan et Mathieu Ménocine, réalisation de Anne Kobilac.